Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il est 15h à Kinshasa, madame, messieurs. Bienvenue à ce journal sur Radio Kapi. À la une, élection des gouverneurs et des sénateurs reportée dans la province de l'Équateur. Ceci fait suite à la remise en cause du bureau définitif de l'Assemblée provinciale et l'invalidation de certains députés, révèle les communiqués de la CENI Équateur du 25 avril reportant ces deux scrutins. À Ituri, six groupes armés locaux s'engagent à mettre fin aux hostilités et faire désormais partie de la provision des forces armées de la République démocratique du Congo pour défendre son intégrité territoriale. Ils ont signé vendredi un protocole d'accord de retour de la paix durable avec les gouvernements. Célébration ce samedi 27 avril de la journée vétérinaire 2024. À cette occasion, le président de l'Ordre national des vétérinaires met l'accent sur la qualité de l'alimentation en RDC et sur les rôles du vétérinaire et de l'agronome dans l'autosuffisance alimentaire. Docteur Alain Moukoua Molonso est l'invité de ce journal. Bonjour. Report d'environ une semaine des élections des gouverneurs et des sénateurs dans la province de l'Équateur. C'est à la suite des doubles communications le 25 avril dernier faites d'une part par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et d'autre part par la CENI, laquelle remet en cause les bureaux définitifs et l'invalidation de certains députés. Pourtant, les bureaux définitifs en place depuis le 2 avril clament sa légalité. Une position portée également par plusieurs organisations politiques de l'Union sacrée de la nation et de la société civile. Éclairage avec Paul-Richard Malengela.
Silence de cimetière ce samedi matin à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Aucune affiche ou activité de campagne électorale. Conséquence visible du communiqué de la CENI qui a reporté tous les scrutins faute d'installation du bureau définitif. Mais le président du bureau définitif installé le 2 avril dernier est en place. Alexis Komoisangola déclare tout haut la légalité de son bureau.
Ceci suppose peut-être que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur n'a pas transmis nos PV à la CENI pour qu'il soit suffisamment informé de la situation. Donc jusqu'à preuve du contraire, il y a un bureau définitif légalement établi par les bureaux d'âge.
En réaction au message du VPM Peter Kazadi et au communiqué de la CENI, ce vendredi en Bandaka, la population a brûlé les pneus devant le bureau provincial, lequel reste fermé ce samedi. Aussi, les 12 présidents fédéraux des partis de l'Union sacrée estiment que le VPM cherche par là à imposer la candidature du gouverneur Bobo Boloko. Ils demandent le retrait du communiqué de la CENI et que les élections aient lieu telles que prévues le lundi 29 avril. En outre, ils sollicite l'implication du chef de l'État afin de rétablir l'Équateur dans ses droits. De même, les cadres de concertation provinciale de la société civile désapprouvent cette attitude du VPM, puisque, a dit son président Fabien Mongouza, ce bureau définitif a été installé à la régulière. Bondaka pour Chamalengela, Radio Okapi.
Généralement, élection des gouverneurs des provinces, c'est pour le lundi 29 avril. Elle se déroulera dans 20 provinces sur les 26 et est couplée à celle des sénateurs. À Kinshasa, les Kinois s'expriment sur les profils du successeur de Gentili Ngobila. Ils révèlent aussi certains défis qui l'attendent. Greta Lulendo nous en parle dans ses reportages.
Au total, 31 candidats sont à la course pour le gouvernorat de Kinshasa. Les Kinois pensent que le premier citoyen de la ville doit être un Kinois qui connaît leur quotidien.
Il doit être un Kinois, une personne qui a vécu avec nous à Kinshasa, qui connaît nos difficultés. Un travailleur, une personne de proximité.
Qui doit être apte, qui ne reste pas seulement casé dans son bureau, mais qui doit commencer à sillonner dans toute la ville province de Kinshasa.
Les défis et les attentes sont légion, disent les Kinois qui espèrent voir l'amélioration de leurs conditions de vie.
Les phénomènes coulent. Le bandit à main armée, les problèmes de l'énergie ou encore l'énergie électrique. Les embouteillages.
Des frais académiques déjà énormes déjà dans nos universités publiques.
Dans les secteurs des emplois.
Dollars.
Le panier de la ménagère.
Hein. Les problèmes de transport.
Lutter contre les constructions anarchiques.
Pour moi, la ville de Kinshasa est trop sale.
L'état où se retrouve le caniveau.
Problèmes socio-économiques. Les Congolais, les Kinois qui travaillent chez les Pakistanais, les Indiens, les Libanais, là, ils sont maltraités.
D'autres, en revanche, disent ne rien attendre. L'un d'eux nous dit pourquoi.
Je n'attends rien. La corruption bat son plein. Avec 50 000, 10 000 dollars, un véhicule TX, on peut acheter deux voix et puis élire un gouverneur.
Notons que la campagne électorale des gouverneurs et sénateurs prendra fin ce samedi 27 avril à minuit.
Pendant 7 ans, troisième et dernier jour de la campagne électorale pour les élections des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs au Congo central, 62 candidats sont en lice pour les 4 sièges au Sénat et 14 candidats compétissent pour le gouvernorat du Congo central. Eux tous défilent devant les grands électeurs depuis le début de cette campagne pour la présentation de leurs projets de société. Non loin de l'hémicycle, les militants des partis et regroupements politiques scandant des chants, certains dansent au rythme de la fanfare. Les points avec Nana Plurich Mambo.
C'est une ambiance délirante à laquelle on assiste depuis le début de cette campagne électorale dans les encablures de l'Assemblée provinciale du Congo central. Plusieurs affiches, calicots et autres supports arborent sur ces lieux. Ce samedi, 7 candidats gouverneurs et une quinzaine de candidats sénateurs sont attendus pour séduire les grands électeurs par leur projet de société. Depuis le début de cette campagne le 25 avril, les mots-clés de tous les candidats qui défilent devant les grands électeurs est le développement et l'émergence du Congo central. Ce développement pour certains candidats passe par la relance des activités ferroviaires entre Kinshasa et Matadi en vue de mettre fin aux embouteillages et accidents sur la nationale numéro 1. La construction des infrastructures routières, notamment les routes de dessert agricoles. Aussi, la construction d'une passerelle entre les territoires de Luozi et celui de Songololo. D'autres, en revanche, optent pour la relance de l'agriculture à travers la province, endiguer l'insécurité sous toutes ses formes et parachever les différents cercles sportifs en chantier dans la province, à l'instar du stade Lumumba de Matadi, Sokol de Boma et Mfuki de Madimba. Rappelons que ces élections des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs sont prévues ce lundi 29 avril. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Par ailleurs, l'opposition républicaine demande à la Commission électorale nationale indépendante CENI de suspendre les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs à la suite des corruptions qui couvrent ces processus avec un nombre exorbitant de candidats indépendants. C'est au cours d'une matinée politique animée ce vendredi à Kinshasa que le député national Constant Mutamba, autorité morale de la dynamique progressiste révolutionnaire DIPRO, a dénoncé clairement les antivaleurs qui gangrènent les députés provinciaux nouvellement élus. À cette occasion, l'élu de Lubao demande également au procureur près la Cour de cassation et les procureurs près des cours d'appel de se saisir de ces dossiers. On écoute Constant Mutamba au micro de Richard Junior Kamunga.
L'opposition républicaine DIPRO s'est dit consternée par la montée en puissance du taux de corruption qui se vit dans ce processus électoral au niveau de la sénatoriale et gouvernementale. Il est anormal que des candidats indépendants qui n'ont aucun député provincial puissent postuler. Et c'est eux qui sont à la base de ces antivaleurs, de ce taux de corruption, malheureusement, qui ternit l'image de notre République. Et donc nous risquons d'avoir des gouverneurs corrupteurs face aux députés corrompus, qui n'auront des priorités que de rembourser les emprunts qu'ils ont contractés auprès des opérateurs économiques étrangers plutôt que de se focaliser sur les développements du pays, sur les besoins et des desiderata de la population.
Mais qu'est-ce que vous demandez à la justice ?
À la justice de pouvoir interpeller et arrêter tous ceux qui se sont livrés à ce type de pratiques.
En Ituri, signature vendredi du protocole d'accord de retour de la paix durable entre les gouvernements et les leaders des 6 groupes armés locaux actifs dans cette province. Ces derniers ont pris l'engagement de mettre fin aux hostilités et d'être prêts à participer à la défense de la patrie comme des réservistes des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était à l'issue des dialogues de 2 jours entre les vice-premiers ministres de la Défense et anciens combattants représentant les gouvernements de la République, les communautés et les représentants des miliciens. Martial Kizabiamungu nous fait les condensés de cet accord de paix.
C'est le vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo qui a posé sa signature sur ce protocole d'accord de paix au nom du gouvernement congolais. Les groupes armés locaux FRPI, URDPC, Barco-Déco, FPIC, MAPI, Autodéfense et Chiliatuna, représentés par leurs leaders, ont pris l'engagement de cesser immédiatement avec les hostilités et exactions sans condition sur la population civile, les forces de défense dans le respect des instruments juridiques nationaux et internationaux. Tous décident de laisser la libre circulation de personnes et leurs biens pour favoriser le retour des déplacés et les rapatriements des réfugiés dans leurs milieux. Ces leaders miliciens acceptent de ne plus circuler avec les armes et déporter les indices militaires et policiers. Ils s'engagent également de matérialiser leur adhésion au programme de 2DRCS. Par rapport au tireur de ficelle, ces groupes armés locaux promettent de les dénoncer devant les autorités pour qu'ils soient arrêtés. Cependant, ils demandent au gouvernement et à la communauté internationale d'appuyer la mise en œuvre de la feuille de route de ces protocoles d'accord pour sa matérialisation. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Cependant, au Nord Kivu, des combats sont signalés depuis ce samedi matin dans la cité de Kibirizi en chefferie de Bouito, dans les territoires de Rutshuru. Les habitants restent enfermés dans leurs maisons au regard de l'intensité des affrontements qui se dérouleraient en pleine agglomération. L'information est confirmée par les fonctionnaires délégués du gouverneur du Nord Kivu qui s'est déplacé vers Kanyabayonga. Chris Mukand.
Déogracia Kitabouire, fonctionnaire délégué du gouverneur, affirme que des combats font rage dans la cité. Des bombes tombent sur les habitations et il y a des détonations d'armes lourdes et légères depuis 6h du matin. Rappelons que les affrontements ont débuté vendredi soir et ce samedi, ils redoublent d'intensité. Les FARDC, en collaboration avec les volontaires pour la défense de la patrie, sont aux prises avec les terroristes du M23 pour le contrôle de la cité de Kibirizi. Il est pour l'instant difficile de connaître la situation exacte dans les Bouito, car impossible de joindre les habitants de cette entité. Pendant que ceux qui sont dans la cité restent enfermés dans leur maison, les conditions ne permettent pas à ceux qui étaient sortis d'y retourner. D'autres se cacheraient dans la forêt, observant l'évolution de la situation tout au long de la journée. Par ailleurs, à une dizaine de kilomètres, à l'est de Kibirizi, d'autres combats se déroulent depuis jeudi. Les FARDC se battent contre la coalition M23-RDF en plein parc national de Virunga pour le contrôle de la région de la Ruindi. Les sources officielles n'ont encore fait aucune communication sur les combats dans cette zone. Goma, Chris Mukand, Radio Kapi.
Autre nouvelle, l'Office national d'identification de la population ONIP a relancé ce vendredi à Kinshasa l'opération de délivrance des cartes pour citoyens. Quelques autorités politiques et patrons des maisons de presse invités y ont reçu ces documents. La plupart des bénéficiaires ont souhaité que cette opération se poursuive sans désemparer à travers les pays. Ce reportage est signé Blaise Ndongala Mayanda.
Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, fait partie des personnalités ayant reçu leur carte d'identité ce vendredi. Au sortir des bureaux de l'ONIP, ses hauts magistrats a souligné que cette carte d'identité octroie aux Congolais non seulement leurs droits, mais également leur dignité au niveau national et international.
Ce qui fait l'état de droit aussi, c'est l'identification nationale. Avoir une pièce d'identité, non pas pour aller voter, mais qui vous identifie en tant que Congolais, est un droit que le Congolais a fait, mais qu'il n'a pu jouir pendant plus. Et aujourd'hui, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité et nous entrons dans une nouvelle marche de dignité, non pas seulement nationale, mais internationale. Ce qui peut faire en sorte que nous soyons réellement ce grand peuple, c'est reconnaître les résultats de notre lutte.
Avec cette opération, le gouvernement s'engage à doter des cartes d'identité aux Congolais 40 ans après les derniers recensements. Selon l'ONIP, les bénéficiaires doivent se munir d'une carte d'électeur, d'un passeport congolais, d'un permis de conduire ou soit se présenter avec trois témoins attestant leur appartenance à la RDC. Conçue par la firme internationale IDEMIA, cette carte pour citoyens est sécurisée grâce à la technologie de gravure laser LAN5.
Et puis, en Nord Kivu, il est loisible de constater que des rues et avenues de la ville de Beni sont délabrées. Cela est consécutif aux pluies qui tombent abondamment ces derniers jours dans la région. Cette situation impacte la circulation des engins roulants. Grévis Salumu a fait la ronde de la ville de Beni. Voici son reportage.
Sur l'avenue qui mène Antony, précisément du côté de Merlin, dans la commune de Moulekera par exemple, un axe pourtant réhabilité pendant les travaux du Fonds social de la République, nous remarquons la présence de quelques nids de poules. En cause, l'absence des canaux d'évacuation d'eau, une situation qui rend un mauvais service aux usagers. Témoignage de Eric Kasereka, un conducteur de moto-taxi.
Actuellement, certaines rues et avenues sont délabrées ici à Beni. Lorsqu'on roule à moto, nous sortons des douleurs au niveau de la hache à la suite de plusieurs secousses qu'occasionne renseignent des poules dans ces routes. Des fois, on est obligé de rouler lentement ou soit de faire descendre les clients. Et la course prend du temps dans ces trajets.
Situation similaire en allant au quartier Kanzulinzuli et à partir du Ropoir. Nzanzu Sambili est jeune rencontré sur place, parle de la responsabilité de l'État.
Le limite même de terrasser ne respecte pas les normes de la construction. C'est la responsabilité de l'État et du gouvernement de faire tout moyen jusqu'à ce que ces routes soient entretenues régulièrement.
Pour sa part, le chef de l'office de la voirie et drainage à Beni indique que ces cas de détérioration des risques à venir relèvent pour le moment de la responsabilité de la cellule de suivi du programme des projets CSPP. C'est à elle qu'il revient de traiter ces problèmes. Beni, Grévy Salomou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Un peu plus de 4 millions d'électeurs togolais sont appelés aux urnes lundi 29 avril pour des élections législatives et régionales. Reporté à plusieurs reprises, ce double scrutin se tient alors qu'une nouvelle constitution adoptée par les députés sortants le 19 avril fait passer les Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Les élections vont-elles se transformer en référendum pour ou contre les nouveaux textes? C'est le vœu de l'opposition qui revient dans la course après avoir boycotté les législatives de 2018.
L'invité.
Célébration ce samedi de la Journée mondiale vétérinaire 2024 sous le thème « Le vétérinaire est un agent essentiel de la santé ». L'Ordre national de médecins vétérinaires de Kinshasa organise plusieurs activités en ce moment dans l'amphithéâtre de l'INRB. Son président met l'accent sur la qualité de l'alimentation en RDC et sur les rôles du vétérinaire et de l'agronome dans l'autosuffisance alimentaire. Docteur Alain Moukoua Molonso est l'invité des Radio Okapi. Il est interrogé par Michel Kifindangoy.
Docteur Alain Moukoua, bonjour.
Bonjour.
Ce pays riche en pâturage est incapable d'assurer une alimentation saine à sa population. Qu'est-ce qui se passe concrètement?
C'est vrai que la République démocratique du Congo ne sait pas assumer l'alimentation pour sa population. Nous importons par exemple pour la ville de Kinshasa plus de 80% des denrées alimentaires végétales. La viande, n'en parlons même pas. Les laits, nous consommons n'importe quoi. Au fait, moi j'ai identifié personnellement des problèmes. Le premier problème, c'est l'autorité. L'autorité ne connaît même pas l'importance des animaux, l'importance de l'agriculture, de la médecine vétérinaire. Et voilà, les conséquences sont là. Pourquoi? Parce que nous nous tournons totalement, seulement vers les zones minières. Nous pensons que ça va résoudre les problèmes. Un deuxième problème qui est très inquiétant maintenant, c'est cette bourgeoisie comprador que nous venons de créer. C'est-à-dire, nous pensons que nous pouvons tout résoudre par la politique. Tu trouves, par exemple, le ministère de l'élevage et pêche avec un philosophe à la tête. Le secrétaire général, la même chose, un chimiste. Mais comment vous allez résoudre les problèmes? C'est l'incompréhension totale. Or, la médecine vétérinaire, l'agronomie, ce sont des patrimoines mondiaux. Les États-Unis, avant de devenir États-Unis, ont rempli les ventres de leurs enfants. Parce que pour que tu puisses défendre les pays contre tous ceux qui viennent voler chez nous, il faut que tu puisses être quand même rassasié. Tu ne peux pas partir à la guerre affamé.
Alors, quel état des lieux faites-vous de l'alimentation en République démocratique du Congo?
Non, c'est catastrophique. Nous mangeons, comme je l'ai toujours dit, à la poubelle. Nous ne savons pas ce que l'on nous envoie, c'est quoi. Je donne un exemple, les laits. Tous les pays que j'ai parcourus, les pays limitrophes, les Rwanda, les Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, les Kenya, tous ces pays-là consomment les laits frais. Et nous consommons une poudre que nous appelons les laits. Cette poudre-là, c'est quoi? Elle est faite de quoi? Selon les investigations, il y en a même qui confirment avec beaucoup de certitude que la poudre de lait que nous avons à Kinshasa, elle est faite de l'huile de palme. Et d'autres pensent que c'est le soya. D'une manière générale, nous n'avons pas le lait à 100%. Nous avons quelque chose qui ressemble au lait. D'autant plus que même les commissions qui devaient se charger de l'expertise n'existent pas. Un médecin vétérinaire qui touche 100 dollars, vous pensez qu'il va faire quelle expertise sur la matière? Donc, il y a l'incompréhension totale. D'ailleurs, avant-hier, il y a un conseil des ministres que j'ai salué qui parlait sur les chiens. Dans la ville de Kinshasa, il y a de gros chiens qui se promènent sans loi. Mais ce qui m'a étonné, la fête du communiqué dit que non, c'est le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé qui devaient se faire. Il dit, ah, alors là, la confusion est totale. Il y a un ministère qui est chargé de telles activités. Donc, vous voyez, c'est tout un pays qui n'est pas en train de comprendre comment il doit s'occuper de son peuple du point de vue de l'alimentation.
Qu'est-ce que vous préconisez pour qu'on arrive à aider la RDC à s'autosuffire au niveau alimentaire?
Il faut définir une nouvelle ligne de conduite dans la chose publique. Hein. Voyez par exemple, les parlements, ils votent quel budget pour l'agriculture et l'élevage? Qui est subventionné en République démocratique du Congo? Pendant ces temps, aux États-Unis, en France, partout dans tous les pays du monde, pour produire, on subventionne les peuples, les agriculteurs et les éleveurs. Si nous pensons que nous pouvons allouer 1 million ou 10 millions de dollars à la défense et que nous pouvons allouer rien du tout pour l'agriculture et l'élevage, nous nous trompons. C'est devait être l'inverse. Plus les populations de frontières sont affamées, plus ils sont faciles à conquérir. Plus ils ont leur bétail, plus ils ont leurs élevages, ils ont leur agriculture, plus ils ne peuvent pas se déplacer.
Pour vous, la solution serait de promouvoir des villages pastoraux et agricoles tout autour des frontières de la RDC?
Oui, évidemment, c'est une des solutions, mais d'une manière générale, il faut une attention de l'autorité et il faut injecter des fonds sérieusement en agriculture et en élevage. Nous pouvons nourrir toute l'Afrique. Nous avons tendance à récompenser ceux qui excellent par le mal. Et le résultat, c'est celui-là. Nous allons continuer à manger à la poubelle jusqu'à quand? De toutes façons, il faut rentrer dans la terre.
Docteur Alain Moukoua, je vous remercie.
Merci.
Docteur Alain Moukoua Molonso, président de l'Ordre national de médecins vétérinaires du Congo, répondait aux questions de Michel Kifindangoy. Et c'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Mise en onde pour vous par Alain Goy, supervisé et coordonné par Jacques-Yves Moliman et Jean-Désiré Kanyama. Patience Ngalou Lambombo vous l'a présenté. Merci à vous tous de l'avoir suivi.